L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 234e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Ça fait près de 2 mois que nous n'avons pas pu faire l'émission pour diverses raisons. Vous savez que Radio Campus a eu un grave problème suite aux tempêtes qui ont touché l'ouest de l'Europe le mois dernier. Le mât s'est effondré, donc les émissions en direct en FM n'ont pas pu être assurées, même les émissions tout court pendant quelques jours. La radio se remet assez difficilement. C'est quand même des travaux coûteux, donc sur la page de Radio Campus, campusville.com, donc une page qui permet donc de pouvoir contribuer aux travaux de réfection du mât et donc de pouvoir permettre à Radio Campus d'avoir à nouveau des infrastructures qui lui permettent de diffuser en pleine autonomie. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose?
Contribuer financièrement, parce que si vous savez poser une antenne, vous pouvez les contacter, mais c'est financier à ce niveau-là, hein, vu le type de travaux. C'est pas monsieur tout le monde qui va venir mettre une antenne au-dessus du bâtiment.
C'est donc l'actualité presque du mois et demi écoulé, parce que deux mois écoulés. Et on va commencer avec une bonne nouvelle en provenance de la CNIL. Suite à une plainte qui a été déposée par l'association Noibi, donc qui est un équivalent européen de la Quadrature du Net, donc qui a signé plusieurs organismes, plusieurs entreprises dans 27 États membres de l'Union européenne, également dans 3 autres États qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui sont membres de l'espace économique européen. Et donc, ils avaient signalé que de nombreux sites Internet utilisent Google Analytics, donc on a régulièrement parlé, donc qui permet d'avoir des statistiques sur la fréquentation des pages Internet, sauf que ça transfère des données à Google et ça transfère des données aux États-Unis. Et la CNIL, en concertation avec ses équivalents européens, ses homologues européens, a décidé que, constater que ceci était contraire au RGPD, donc c'était une violation de l'article 44 notamment et des articles suivants. Le grief est donc que les États-Unis ne garantissent pas les droits du RGPD. Donc, il y a une procédure qui existe, qui s'appelle une décision d'adéquation, qui permet de certifier qu'un pays garantit les mêmes droits aux personnes. Ce n'est pas le cas, notamment aux États-Unis, il y a un fort risque que ces données puissent être utilisées par les services de renseignement. Donc, la CNIL met donc en demeure les entreprises concernées donc à ne pas utiliser Google Analytics pour se mettre en conformité avec le RGPD. Donc c'est une excellente nouvelle.
Et surtout, ça, en fait, c'est quelques entreprises qui ont été mises en demeure par la CNIL, mais ça veut dire que toutes les entreprises, tous les sites Google Analytics en France sont dans l'illégalité. Et ça commence à faire du monde.
Une décision qui fait jurisprudence, tout à fait, Pierre.
Et ça fait plaisir.
Autre jurisprudence, une décision du Conseil constitutionnel qui invalide, juge inconstitutionnel, l'article de loi qui obligeait les fournisseurs d'accès à Internet, à loguer toutes les connexions, donc les heures, les durées, les adresses IP. Donc là, c'est quand même effectivement quelque chose qui durait depuis longtemps. Hein. Et alors, ça a été censuré, sauf que entre le dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité dont a été saisi le Conseil constitutionnel et la décision, la disposition a été reprise, enfin plutôt modifiée par la nouvelle loi antiterroriste du 30 juillet 2021. Mais ça fait tout de même jurisprudence. Donc, ça permettra une plainte concernant un article similaire de pouvoir être considéré avec cette décision du Conseil constitutionnel. On part en Russie, puisque bon, on ne va pas traiter ici du conflit suite à l'agression de l'Ukraine par la Russie, mais on s'est rendu compte, plutôt est arrivé sur le devant de la scène, le fait que un kit de développement donc proposé par la société Yandex est très utilisé dans le monde du développement des applications mobiles, puisqu'on estime que 36% des applications sur Google Play et 11% des applications de l'App Store utilisent ce SDK, donc ce SDK, ce Software Development Kit. Donc, c'est une bibliothèque de fonctionnalités pour la cartographie, notamment toutes les fonctionnalités qui peuvent être utiles dans une application web. Et donc, en échange, Yandex utilise ces données pour de la publicité. Qui dit utilisation pour la publicité dit rapatriement de données sur des serveurs en Russie. Donc là, il y a l'usage commercial. C'est une chose, mais en plus, dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, des applications ont été faites pour cibler l'Ukraine et notamment des applis de téléphonie sur IP qui peuvent éventuellement récupérer les listes de contacts d'un téléphone portable, donc d'une personne, d'un Ukrainien. Et donc, ça peut permettre de savoir les adresses IP des correspondants. Ainsi, et récupérer donc le carnet d'adresse dans le contexte d'une guerre, vous voyez où ça peut aller. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des solutions souveraines. Parce que, on n'est pas prêt d'être en guerre avec les États-Unis, en tout cas pas un conflit militaire, c'est sûr, mais vous voyez où ce genre de choses peut mener.
Ouais. Sachant que, juste pour préciser, Yandex, leur SDK est entre guillemets intéressant dans le sens où sur Android, on peut développer quand on développe une application Android, on développe avec le SDK Android, mais le SDK Android est de moins en moins suffisant parce qu'il y a tout un ensemble qu'on appelle les Google Play Services qui sont fournis par Google uniquement et qui sont propriétaires et spécifiques à Google. Et Yandex est un fournit en fait clé en main à un genre de concurrent de ce Google Play Service. C'est ça que c'est intéressant et c'est pour ça aussi que c'est beaucoup utilisé, notamment par les applications qui souhaitent être disponibles en dehors de l'App Store, enfin du Google Play Store.
On passe chez Microsoft.
Oui.
Windows 11 est un OS sérieux, payant. Quand vous payez, vous n'avez pas de pub. Surtout pas dans le navigateur. Vous avez des pubs sur Internet, sur les sites Internet, vous n'avez pas de pub directement dans le navigateur. Grâce à Edge, si.
Alors, t'as même pas bien lu le titre parce que c'est en ça que ce genre
de. Dans l'explorateur de Windows.
Voilà,
c'est tellement. Dans l'explorateur de Windows, c'est vrai, Pierre.
C'est tellement gros qu'on ne le lit pas correctement. Et oui, c'est l'explorateur de fichiers. Alors.
C'est vrai qu'on a tendance à lire Explorer. C'est Edge qui l'a remplacé.
Oui, et puis, des pubs. Publicité explorateur de fichiers, ça colle pas. Publicité navigateur web, ok. Et donc, alors officiellement, c'est une simple erreur. C'est, on a glissé, on n'a pas fait exprès, on a mis des publicités dans le gestionnaire de fichiers, mais misclic, pardon, on a cliqué à côté. J'aime beaucoup cette excuse, mais j'avoue, j'ai du mal à comprendre comment on peut faire une erreur comme ça. Donc, pendant un certain temps, les testeurs donc des versions de, en fait, chez Microsoft sur les Windows récents, on peut dire je souhaite avoir les fonctionnalités en avant-première ceci cela, bon, pour être testeur tout simplement. Et les testeurs ont vu apparaître un bandeau publicitaire en dessous du fil d'Ariane, donc le fil qui indique les dossiers que vous parcourez, enfin que vous avez parcouru à bon sens. Il y avait un petit bandeau publicitaire.
Ce que je trouve. Tu as carrément développé, excuse-moi Pierre, une fonctionnalité pareille par accident, ça quand même.
Ah ben oui, c'est... Oh. On n'a pas fait exprès, monsieur. Si. On n'a pas. C'est le stagiaire.
C'est le stagiaire qui a voulu bien faire, c'est ça.
Ouais. Et puis c'est allé jusqu'en prod, mais.
On revient en France avec le filtre anti-arnaque promis par Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai
le
que les
candidat.
arnaques en ligne, oui, par le, oui, le président candidat. Donc, c'est le. Oui. Bon, il a fait en tant que candidat.
C'est ça.
Qui n'est pas encore élu. Encore. L'élection arrivera. Pardon, pardon, je m'avance un petit peu. Donc, la solution, ce serait a priori un DNS public, donc qui enverrait un avertissement. Donc, je suppose une page avant redirection vers le bon site. Hein, moi, c'est comme ça que je le. Enfin, je vois pas comment il ferait autrement, Pierre.
Mais c'est là où c'est drôle, c'est que personne ne voit comment ça marcherait leur merde. Excuse-moi, il n'y a pas d'autre mot, c'est une connerie.
Alors, lutter contre les arnaques sur Internet avec la recrudescence, mais plutôt le foisonnement des phishing et les tentatives d'escroqueries, effectivement, c'est un fléau sur lequel il faut lutter. Enfin, c'est remarqué, mais un des plus graves fléaux actuellement, hein, les plus grosses vagues, c'est quand même par téléphone. Hein, les
en
fameuses
ce moment,
arnaques
oui.
contre CPF. Je sais pas, toute personne qui a un téléphone portable et qui l'a laissé à quelques.
C'est bon.
Si l'administration des entreprises se prend une dizaine d'appels par semaine à peu près.
C'est ça. J'en ai pas une dizaine, j'en ai un ou deux par mois. Mais effectivement, les arnaques comme ça, il y en a par téléphone. Les arnaques en ligne, c'est un vrai fléau, il faut lutter contre. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'incompréhension totale de la technologie. Quand on essaie, et pour autant, ils essayent de proposer des solutions techniques. Et c'est là où c'est je ne comprends pas de quel cerveau lobotomisé ce genre de choses ça peut sortir. C'est intellectuellement, c'est complètement faux.
Et on voit bien qu'avoir un président jeune ne nous prémunit pas forcément de ce genre de choses.
Non, effectivement. Bah alors après, là, c'est un député hein, qui a poussé ça aussi, même si ça a été glissé dans le programme du candidat. Donc je suppose que le candidat est un peu au courant de ce qui a été mis dans son programme. J'espère. Sinon, ça serait encore plus inquiétant. Et du coup, leur idée, c'est de dire, alors oui, mais quand on va sur un truc d'arnaque, eh ben, on le détectera grâce au DNS, et puis du coup, pouf, on va pouvoir mettre une page pour dire, attention, c'est dangereux. Sauf que c'est faux sur tous les niveaux. D'abord, les attaques de phishing, c'est pas des noms de domaine spécifiques. Il y a beaucoup d'attaques de phishing. C'est parce que vous avez un WordPress ou autre qui a été trouvé sur Internet, et puis un méchant a déposé une page pourrie dessus. Et du coup, l'adresse, ça va être, imaginons quelqu'un réussit à le faire sur, je sais pas, le site de Stinux, ça va être stinux.org/machin-bidule, un truc incompréhensible, /l'écureuil.html pour du phishing contre la banque de l'écureuil. Voilà. Et donc, vous allez, l'idée, c'est quoi? C'est dire, ah, il y a une page de phishing sur un site, on va fermer tout le site. Accessoirement, comment on fait pour rediriger du DNS à l'époque du HTTPS un peu partout? La question sera répondue avec l'interdiction des sites pornographiques. Donc, on va voir. Ils ont trouvé le clou magique, c'est le DNS. On va faire du DNS pour tout bloquer. On va s'amuser avec, c'est leur nouveau joujou. Donc, ils veulent bloquer le porno, ils veulent faire un filtre anti-arnaque. Moi, j'attends de voir la suite. J'attends de voir l'exécution de ce plan fabuleux.
Je suis d'accord, quand même, sur un point, c'est que on peut pas dire uniquement, ça doit reposer sur l'éducation des utilisateurs.
Attends.
Il faut qu'il y ait une vraie réponse, il faut qu'il y ait des vraies sanctions et qu'on puisse sévir contre
y a une solution,
les délinquants sur Internet.
Et y a une
on
ne
peut pas dire, on peut pas uniquement
déjà.
Dire, vous aviez qu'à faire attention.
Mais il y a une solution technique qui existe déjà dans tous les navigateurs web dignes de ce nom. Par contre, le problème, c'est que cette solution technique est en partie entre les mains de Google. C'est-à-dire que Google diffuse une base de données d'URL connue comme étant malveillante et les navigateurs intègrent cette base de données. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de consultation de Google. Hein, c'est un fichier qui est intégré dans le navigateur. Et bien, l'État pourrait diffuser publiquement un tel fichier. Et les navigateurs allaient chercher le fichier de l'État plutôt que d'aller chercher le fichier de Google. Voilà. Donc là, on a une solution qui marche. Mais c'est mieux de parler de mettre un DNS public avec des grosses infrastructures à mettre en place et tout. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça. Je sais pas.
Vous avez probablement entendu parler des failles de sécurité trouvées par le groupe Lapsus. Pierre, il y en a une qui te scandalise particulièrement.
C'est pas tant une faille que ça, là, ce qu'ils ont trouvé. Ils ont réussi.
Oui, c'est une bourde.
Ils ont réussi à rentrer sur le réseau de différentes entreprises et par rebond, ils ont fini par arriver sur le réseau d'un certain Okta, Alors Okta, qu'est-ce que c'est, me demanderez-vous? Eh bien Okta, et tout à fait, c'est une entreprise qui vise à supprimer les mots de passe dans les entreprises pour plus de sécurité. Donc pour cela, c'est en fait au lieu, lorsque tu es toi employé dans ton entreprise, au lieu d'avoir à connaître 10 mots de passe pour 10 applications, et au lieu d'avoir ton service informatique qui met une authentification centralisée comme il faut, à la place, ton service informatique il va passer par Okta, qui va retenir les 10 mots de passe différents que tu as et les saisir automatiquement pour toi. Et toi, tu as juste à retenir ton mot de passe auprès d'Okta. Donc niveau sécurité, cette solution, elle m'a toujours semblé dégueulasse, mais admettons, beaucoup d'entreprises s'en
sont
servies.
C'est un portefeuille de mots de passe mal sécurisé, un coffre-fort de mots de passe mal sécurisé.
Alors, on n'a pas le droit de faire de la diffamation comme ça, mon ami, mais moi, je n'ai rien dit, mais je n'en pense pas moins. Voilà. Et toujours est-il que la faille, le groupe Lapsus est tombé, donc ils sont passés par l'entreprise Citel, donc un truc de service client, pour réussir à récupérer des données, et ils sont tombés sur un fichier Excel qui contenait des mots de passe de compte administrateur. Ça fait partie de l'une des étapes pour les rebonds. Et je trouve ça extrêmement drôle, du coup, de voir que, ben, lorsqu'ils sont allés casser Okta, ben, ils ont récupéré un fichier Excel rempli par deux mots de passe d'administrateur de domaine. Donc, dans le monde Windows, un administrateur de domaine, c'est, une fois qu'on a un compte administrateur de domaine dans le monde Windows, on contrôle tout le réseau de l'entreprise. C'est la cible à obtenir. Donc, moi, je trouve ça magnifique. C'est une belle illustration de leur savoir-faire, je pense.
Attention, Pierre, on a dit quoi sur la diffamation, s'il vous plaît?
Mais j'ai juste dit que c'était une illustration.
C'était les nouvelles concernant la sécurité et la vie privée. On se retrouve avec d'autres actualités. Après un premier morceau de musique, nous allons écouter Sun Status, Don't Wait. Vous écoutez les codes et nous sur Radio Campus 106,6, campuslille.com et la radio numérique terrestre.
When you're down, pull you up to settle, watch you when you're down. I'll fill you up with hope, everything.
C'était Soon Status, Don't Wait. Vous écoutez l'écho avec nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusfil.com. C'est l'heure des actualités logicielles. Et Pierre, tu vas nous parler du projet KDE, le projet KDE qui pense à la planète et qui développe des logiciels qui utilisent moins de ressources processeurs, qui vont utiliser moins d'énergie, moins d'électricité. Car l'électricité est notre avenir, économisons-la.
Je crois que le slogan, c'est l'énergie notre avenir, mais oui, c'est l'idée. Donc, toujours est-il que oui, le projet KDE fait partie de... En fait, KDE est beaucoup plus européen que GNOME, et en tant que projet européen, donc du coup, il y a toute une partie allemande, et en Allemagne, il y a un groupe, alors Blau Angel, je sais plus, donc c'est des labels de certification écologique, et je ne me souviens plus si c'est une entreprise ou si c'est un truc d'État. Bref, la prochaine fois je rechercherai à nouveau avant l'émission. Et donc ils fournissent des certifications pour divers produits, pour dire votre lave-linge, votre voiture ou je sais pas quoi, et bien là ils ont une certification pour les logiciels, et le projet KDE a commencé à faire certifier un ensemble de logiciels sur les critères écologiques. Donc, essayer de réduire la consommation d'énergie, donc alors, mesurer la consommation d'énergie, analyser ce qui pousse à la consommation d'énergie dans le logiciel, faire certifier qu'il n'y a pas de gaspillage, que les choses sont correctes. Alors, je pense beaucoup de mal de ce genre de label, parce que c'est extrêmement difficile de mesurer ça réellement. Par exemple, un lecteur de PDF, qu'est-ce qui fait que le lecteur de PDF est efficace? En fait, il faudrait le comparer à l'ensemble des lecteurs de PDF du marché pour pouvoir dire, ah ben oui, mais celui-là, lui, il est vraiment efficace. On sait jusqu'à combien on peut descendre du coup en consommation d'énergie pour afficher un PDF. Et donc, écoutez, vous tous les autres, tous les bouseux, là, votre objectif à atteindre, c'est ça. Toi, ton objectif, c'est faire encore mieux que ce que tu fais. Le système de label comme ça peut pas aller jusque-là. Ça reste une étape qui me semble va dans le bon sens quand même, pour dire il y a un vrai impact sur le logiciel, il faut faire des efforts, et je trouve ça bien que ce soit un membre important du logiciel libre, en tout cas pour le bureau Linux, qui s'implique là-dedans. J'aimerais bien voir d'autres logiciels s'y impliquer. C'est reconnaître la consommation d'énergie du logiciel, c'est déjà faire plus que beaucoup de, notamment de politiques qui vont dire, oui, si on fait de la digitalisation, comme ils aiment dire, si on fait de la digitalisation, ça va réduire l'empreinte carbone. Magie. Alors que là, non, justement.
Der Blauer Engel est donc un label public.
Label public, merci.
Du ministère fédéral pour l'environnement allemand. Créé en 1978.
Et autre nouvelle du projet KDE, on parlait un tout petit peu de la guerre en Ukraine tantôt. Donc le projet KDE s'excuse des ralentissements sur le développement en ce moment, puisque une partie des développeurs se trouve sous les bombes. Oups, la boulette. Donc à nouveau, s'il y a des gens qui viennent de là-bas, il faut les accueillir, c'est pas leur faute, Pensez-y. Bref, mais nous n'avons pas le droit de faire de politique.
On a le droit, Pierre.
On a le droit. Oh, tant mieux. Là, pour le coup, par contre, c'est un petit coup
et
politique.
Et il faut croire que je sais pas pour quelle raison, mais les immigrés ukrainiens font moins peur.
C'est ça, c'est vrai. J'avais oublié.
Regardez-moi, je suis d'origine ukrainienne. Je ne fais pas peur. Regarde, Pierre n'a pas peur de moi, n'est-ce pas?
Ah, je te croyais polonais, moi.
C'est compliqué.
Et donc, autre élément politique, justement, petite transition, il y a une petite dans Discover, donc qui est l'outil pour installer des applications dans le projet KDE, ils ont décidé d'afficher désormais un avertissement lors de l'installation de logiciels propriétaires. J'avoue, j'ai un peu le cul entre deux chaises là-dessus, parce que c'est pour dire qu'il y a des risques de sécurité, etc. Oui, mais il y a des risques de sécurité sur le logiciel libre aussi, donc je trouve ça un petit peu focu, mais en même temps, le logiciel libre est politique ou le logiciel libre n'est pas. Et une dernière qui m'a fait beaucoup rire, parce que j'avoue que je ne m'attendais pas à voir ça comme article passé sur le grand internet, il y a eu une nouveauté qui a été présentée dans une version de KDE qui sortira prochainement avec des beaux effets graphiques lors d'utilisation de certains gestes sur écran tactile. Et j'ai vu passer un article pour dire oui, ça, c'est vachement mieux que ce que fait Windows pour les versions tablettes. Regardez, ça, c'est du beau boulot, etc. Et c'est passé sur des sites relativement généralistes et je me suis dit, waouh. Donc, en fait, la seule chose qui compte, c'est l'esthétique sur les tablettes maintenant.
C'est fabuleux. C'est ce que voit l'utilisateur final. Hein. Ouais, c'est joli. Les performances derrière, bon, sauf si c'est calamiteux.
Ça m'a fait tout.
Pas forcément ce qu'on voit, ce qui se remarque le mieux par l'utilisateur final. Pierre, tu veux nous parler donc de la dépréciation de fonctionnalités. Quand est-ce qu'il faut les abandonner? Quand est-ce qu'un projet libre doit dire bon, cette fonctionnalité n'est plus utilisée, faut la supprimer?
Tout à fait. Alors, il y a eu deux exemples très récents au sein du projet Linux là-dessus. Donc, somme toute, le projet Linux, quand même, ça montre, c'est quelque chose, quoi. C'est pas le petit projet d'un mec dans son garage avec un énorme effort de compatibilité qui a été fait jusqu'à maintenant. Il y a très peu de cas du noyau Linux qui est devenu incompatible lors d'une mise à jour. Et donc là, il y a deux choses qui sont en train, peu à peu, de partir. Donc tout d'abord, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas connu en tant qu'utilisateur de Linux. Alexandre, tu n'as pas connu non plus. Enfin, j'ai pas connu, je crois, j'en ai déjà aperçu. C'est une légende. Le support d'un vieux format de fichier exécutable qui date de tellement longtemps que tout le monde l'a oublié puisque ça date d'avant 1995. Donc le noyau Linux était enfant. À l'époque, personne ne s'en servait. Et donc, juste pour supprimer ce format de fichier, le support de ce format de fichier, il y a eu tout un ensemble de discussions et ça m'a fait beaucoup rire de voir ça. Il y a eu donc un débat pour dire bon bah on supprime le format le support de ce format de fichier, donc c'est bon, allez on désactive. Et il y a une personne qui est venue sur la mailing list pour dire
moi je m'en sers, moi.
Voilà, moi monsieur, moi, je m'en sers pour compiler des programmes pour ma console Atari Jaguar. Donc, pour ceux qui sont pas experts en console, la Atari Jaguar, ça a été un gros, gros, gros flop des années 90. Et donc, il y a au moins un mec sur Terre qui compile encore des programmes pour Jaguar, qui le fait sous Linux, et c'est un compilateur propriétaire qui n'est pas disponible avec les exécutables modernes. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la solution qui lui a été proposée, il y a un développeur du noyau qui lui a fait un petit patch pour qu'il puisse lancer pour son programme, même sans le support de ce format d'exécutable, avec juste une petite bidouille.
Et pour la solidarité. Et nous, on aime bien le rétro-gaming, hein, le dernier poilu qui utilise le format obscur, nous, ça inspire plutôt la sympathie.
Et autre dépréciation qui est en train de passer au niveau du Linux, celle-là, elle a été validée par contre parce qu'il y a un vrai souci derrière. Le support du système de fichiers RiserFS, donc on parlait de ce système de fichiers-là il y a 20 ans à peu près, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup moins maintenant, plus personne s'en sert même. Tous les autres systèmes sont mieux, hein. Il y a de l'eau à couler sous les ponts. Et donc,
principal contributeur
est en prison. Voilà. Est en prison. Ça n'aide pas. Et donc,
il est sa femme. Donc, bon. Voilà. T'as pas aidé à la réputation.
Non, ça n'aide pas. Et ça, surtout, ça n'aide pas au développement des nouvelles versions. Et donc, le système de fichiers va être déprécié. Et donc, le noyau Linux, ils ont décidé de déprécier le format de RiserFS uniquement parce que RiserFS. Bon, déjà parce qu'il n'y a plus personne pour le maintenir et parce que ce n'est pas compatible avec l'an 2038. Et donc, ils considèrent que il faut plus le supporter pour aider les gens à migrer vers des systèmes qui soient compatibles. Et où ça m'intrigue un petit peu, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le format FAT qui, à ma connaissance, n'est pas non plus super avancé. Donc, je sais pas quand est-ce que le format de fichier FAT va expirer, mais je me demande s'il n'a pas un petit peu le même genre de problème. Et là, par contre, ça sera très drôle puisque tout s'en sert.
Oui, c'est très utilisé. Alors, c'est un format qui permet en plus la compatibilité entre Windows et Linux.
Oui.
Donc, la transition va pas être facile. Voilà. Pierre, Tu as vu un article qui vantait les performances du Ubuntu Snap pour le chargement des applications KDE, sauf que ça te laisse assez songeur.
Alors, attention, qui ne vante pas le temps de chargement, faut pas déconner, qui dit, regardez, on a vachement bien amélioré le truc.
Ouais, donc ils vantent les temps de chargement.
Ah.
Ils vantent leurs
leurs améliorations. Alors, petit rappel, donc Ubuntu Distribution Linux, qui a décidé d'introduire son propre format de paquet qu'ils appellent des snaps, donc pour diverses raisons, hein, notamment la raison du les autres formats, c'est pas nous qui l'avons inventé, donc ils sont moins bien. Gros argument. Et donc, leur format snap, ils ont décidé de migrer un peu manu militari de plus en plus cette application dessus. Donc, notamment, si vous essayez d'installer Chrome ou Firefox sur une Ubuntu récente, ça l'installe sous forme de snap. Et les snaps, ben, il y a un problème majeur. Et là, c'est assez bien illustré par le travail qui a été mené par le projet KDE pour essayer de réduire ça autant que possible. Le format snap et l'utilisation d'un snap, c'est nécessairement beaucoup plus lent pour démarrer l'application. Et là, c'est notamment l'application J'ai compris, donc l'application éducative, qui est passée de 14,5 secondes pour démarrer à 6,3 secondes.
Et 14 secondes, c'est long. On va pas faire un blanc de 14 secondes, mais si on le faisait...
Non, voilà, on perdrait des gens.
Le public penserait, les auditeurs penseraient que la station est en panne.
Ce qui n'est pas faux. Mais effectivement, c'est catastrophique. C'est des temps de chargement comme ça, c'est inimaginable sur les matériels modernes. Ça me choque complètement. On se plaignait à une époque quand on lançait les outils bureautiques. Je me souviens quand je lançais StarOffice 5.2, donc je parle d'un truc mais préhistorique sur une machine il y a 20 ans. On n'était pas content parce que quand on le lançait, il y avait le splash screen, là, donc le logo qui apparaissait, il fallait attendre 10 secondes pour que l'application se lance. C'était extrêmement long. 14 secondes sur nos machines de guerre maintenant, c'est pas possible. Ils ont pris je ne sais quelle drogue, c'est pas vrai. C'est indécent de proposer ça. Et le pire, c'est que du coup, ils le poussent à tout le monde, mais c'est du gavage. Donc je trouve ça insensé, ça va donner une piètre image du bureau Linux.
Merci.
Pas Pierre.
Content. On se retrouve avec d'autres actualités après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Wonder Breaks Your Light. Vous écoutez les Codes News sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Like a beacon in the night sky. Sometimes I find it fading in my mind. Whoa, where are you now? Whoa, where are you now? My dreams blind me from your light beside me. Take me to the place where you'll be. Whoa, where are you now? Whoa, I think I found you out. Light shine down. Light shine down. Take away my selfish gain, or take me to that place. Light shine down on me. Your light shines like the North Star in lost time. Save me and you raise me to your place where I can see you. Whoa, here are you now. Whoa, I think I found you out. Light shine down. Light
C'était Wonder Breaks, Your Light. Vous écoutez les codes Gnous sur Radio Campus, sur CD6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. Et une décision de la justice américaine qui fait plaisir. Open source, donc la domination open source, ne peut pas être utilisée à tort, sinon c'est de la publicité mensongère.
Tout à fait. Et donc, le cas est assez simple. Donc, un logiciel, donc Open Native Graph Database, donc qui était un fork d'un autre logiciel, a été rediffusé sous une autre licence. Donc, l'autre licence. Alors, pour le coup, l'autre licence était une licence AGPL. Donc, pourquoi pas? Et ils l'ont vendu comme étant libre et open source, 100% libre et ouvert, 100% open source. Mais il y a un problème, c'est que l'une des clauses qui a été choisie pour la licence, c'est AGPL plus Common Clause, l'une des clauses rend le logiciel non open source, parce que ça mettait des restrictions. Alors, je ne sais plus quelles sont les restrictions exactement que ça créait sur la rediffusion. Mais donc, il était considéré que une restriction à la diffusion comme ça, donc c'est l'une des clauses, par exemple, je crois que c'est l'usage non commercial qui a posé problème, cette restriction-là n'est pas valide pour continuer à dire que le logiciel est open source.
Ah, pourtant, il est clair qu'on ne peut pas exclure un usage. La seule exclusion d'utilisation d'un logiciel, c'est la loi, c'est pas la licence.
Voilà, et ben donc là, l'utilisation de cette clause a rendu le logiciel non open source et la publicité mensongère. Simple, efficace, et ça fait plaisir pour une fois. Je sais pas si on va en avoir beaucoup qui vont tomber sur ce truc-là. J'espère, hein, mais c'est pas le truc qui va être le plus fréquent, malheureusement.
Le Mozilla Developer Network MDN lance une version payante, le MDN Plus, Pierre.
Tout à fait. Alors, ça intéressera pas grand monde, je te l'accorde. Le MDN, donc le Mozilla Developer Network, c'est pas une référence, c'est la référence aujourd'hui sur la documentation des API du web, donc HTML, JavaScript et CSS. La documentation de référence, c'est chez Mozilla. Point. Cherchez pas. Vous trouverez pas mieux ailleurs, tous les logos habituels qui vont avec ça. Et donc, ben, la fondation Mozilla, qui a quand même des gros soucis de financement, hein, parce que là, aujourd'hui, ils sont quand même entièrement dépendants de Google, la fondation Mozilla a décidé, et je trouve ça bien, comme façon de le faire, ils se sont dit, ben, on va essayer de capitaliser sur cette ressource qu'on a, on va lancer un abonnement premium, un abonnement payant, non pas dans le but de restreindre ce qu'on diffuse gratuitement, mais dans le but de fournir des nouvelles fonctionnalités. Donc de fournir la possibilité d'enregistrer des pages préférées, de tout un ensemble, mais vraiment c'est des fonctionnalités entre un petit peu même basiques, j'ai envie de dire. Mais si ça leur permet de dire, ben regardez, si vous voulez utiliser la MDN et remercier la Fondation Mozilla pour ce travail d'hébergement qui est fait depuis des années, eh bien écoutez, venez juste vous abonner, contactez votre entreprise pour vous abonner à la documentation. Et je trouve que pour le coup, c'est un bon fonctionnement puisque ça évitera de faire porter à des particuliers le coût des coûts récurrents, surtout pour des logiciels où plus personne aujourd'hui ne veut payer. Donc, ce serait très difficile de vendre un Firefox payant, le fait de payer pour Firefox. Aujourd'hui, je sais pas comment ça serait possible de vendre ça. Déjà, il y a 20 ans, Opera payant, c'était très difficile à vendre. Mais alors là, aujourd'hui, je sais pas comment ça serait faisable. Et donc là, est-ce que ça va, on verra, hein, ça vient d'être lancé, mais est-ce que ça va fournir au moins de quoi payer l'hébergement du MDN à Mozilla? J'espère que ça leur permettra de financer un peu plus que ça.
Parce que l'indépendance de Firefox, l'indépendance financière, c'est important, et on sait que pour des logiciels libres, l'indépendance financière est quelque chose d'assez compliqué, le modèle est toujours assez délicat.
Un petit peu.
On revient en France avec une mauvaise nouvelle, plutôt en Europe, c'est que... Bon.
Mauvaise nouvelle.
Le cloud, même l'autocloud au final, le cloud privé, est donc assujetti désormais à la redevance pour copie privée. Étant donné, hein, d'accord, c'est un service d'hébergement, ça peut potentiellement héberger des contenus sous droit d'auteur soumis à la SACEM, donc la SACEM, elle se prive pas même de prélever sa dîme, même si pour beaucoup il n'y a aucune chance que sur ces services ça soit utilisé à la marge. C'est pas grave, parce que bon, vous avez payé la redevance sur le matériel, vous allez aussi payer une redevance sur le service. Il n'y a pas de raison.
Alors, heureusement, ça ne va pas s'appliquer au cloud vraiment privé. Genre, mon serveur ici, qui est dans mon armoire juste à côté de moi, si je fais une sauvegarde dessus, je ne vais pas payer, puisque j'ai déjà payé la taxe sur ce putain de disque dur que j'ai dû acheter. Là, ça serait un petit peu...
Si c'est le privé de chez vous que vous l'hébergez sur votre ordinateur qui est dans votre bureau, effectivement, là, vous y échappez. Vous avez juste payé pour le disque dur.
C'est ça. Mais effectivement, les autres usages, si vous faites du Dropbox, du Google Drive ou je ne sais pas quoi, eh bien toutes ces entreprises vont devoir se mettre à installer un système pour collecter la redevance de copie privée.
Et donc c'est... les cloud, les services publics, enfin publics, gratuits. Je sais comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont prélever ça sur leurs bénéfices ou du coup compliqué économique là-dessus?
Eh ben ouais, c'est fun, hein. Donc moi je trouve ça fabuleux. Je sais pas quoi dire. C'est
une vision européenne, hein, c'est pas uniquement parce que ça vient d'une directive européenne de 2001. Enfin la base sur laquelle le cours de justice de l'Union européenne a donc pris sa décision. Donc c'est pas uniquement une mesure française, c'est une mesure européenne.
Hein. Oui, mais du coup je sais pas ce que ça va donner. Ça va être très fun. Très très fun, j'ai hâte de voir la suite. Ça craint.
On se retrouve avec une dégeekalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Singleton, Waystorm is Near. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus 106,6, campusil.com et la radio numérique terrestre. We'll be right back. C'était Singleton, Ways Storm is Near. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusville.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dédicalisation. Pierre aujourd'hui, DMA, interopérabilité et chiffrement de bout en bout.
Oui, on va s'éclater avec ce joli petit sujet. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le DMA? Donc le DMA, le Digital Market Act, donc c'est un projet de loi au niveau européen, donc qui a été validé récemment. Alors que je dise pas de bêtises, où est-ce qu'on en est dans on a eu un accord entre le Parlement et le Conseil européen, donc il y a encore des votes qui doivent avoir lieu derrière, etc. Et donc, tout simplement, le but de cet accord, c'est de prendre les GAFAM, leurs bras, et tordre le bras un bon coup pour enfin les faire entrer dans un cadre où il sera possible de juste avoir une concurrence libre et non faussée. Ça serait bien. Et du coup, qu'est-ce que ça change le DMA? Alors, je garde le meilleur pour la fin, enfin l'un des meilleurs pour la fin. Donc concrètement, il sera interdit d'imposer certaines applications par défaut dans un système d'exploitation. Par exemple, on devra pouvoir choisir sur un iPhone un autre assistant que Siri ou un autre navigateur web que Safari. On ne pourra plus émettre de les entreprises ne pourront plus émettre de publicité ciblée aux utilisateurs sans consentement explicite. On ne pourra plus limiter les téléphones à un seul magasin d'applications. Donc Apple. C'est pour vous, cadeau. Autre exemple aussi qui vise un petit peu Apple, un tout petit peu, donc les téléphones sont équipés de puces NFC pour les communications proches, et bien il sera interdit de limiter certaines technologies à leurs applications de l'éditeur uniquement. Donc Apple ne pourra plus dire, là la puce qui est là, c'est que moi qui peux m'en servir. Si la puce elle est dans le téléphone, tout le monde doit pouvoir s'en servir.
Ah, j'ignorais que le NFC était réservé sur les iPhones aux applications d'Apple.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrent à Apple Pay sur les iPhones, puisque c'est interdit. T'as pas accès à la fonctionnalité. C'est vraiment putassier. Hein. Donc, les applications préinstallées doivent être désinstallables. Les services comme Amazon ou Facebook devront être transparents vis-à-vis des professionnels. Donc, un vendeur devra pouvoir savoir quelles sont les ventes qu'il fait réellement, quelle est la visibilité de ces annonces, etc. C'est très précis. Des entreprises comme Amazon n'auront pas le droit de mettre en avant leurs propres produits. Donc, je sais pas si vous êtes déjà tombé sur les produits en sous-merde, mais on va essayer de faire les produits proches de la contrefaçon, mais pas trop, sous le nom Amazon Basics, hein, pour vendre le minimum syndical. Et ces produits-là ne pourront plus, en fait, Amazon n'aura pas le droit de mettre en avant ses propres produits, parce que c'est de la concurrence déloyale. Et les sanctions, en cas d'infraction, je les aime beaucoup, ça pourra aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial.
C'est une jolie somme. Parce qu'autant des mesures chiffrées en millions avec ce que brassent les GAFAM, c'est pas forcément quelque chose de très dissuasif, mais c'est vrai que si on commence à taper 10% du chiffre d'affaires
mondial,
bon, après il faut avoir les moyens de le faire respecter. Bon, après, l'avantage c'est que c'est quand même une mesure à l'échelle européenne, ce qui donne un certain poids. Il est vrai. Et si un contrevenant se voyait interdit d'accès au marché européen, ça pourrait avoir un effet dissuasif.
Et en cas de récidive, l'amende peut monter jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mondial. Puis du chiffre d'affaires, pas des bénéfices. C'est hyper violent.
Bon, après, je sais pas, vu le taux de marge d'Apple, sûr. Bon, ils feront des bénéfices avec 10% de leur CM en moins, je pense.
Ouais. Je pense. Et dans le lot des annonces du DMA, celle qui aura, je pense, le plus d'impact pour les utilisateurs au quotidien, les grands services de messagerie, donc des grosses entreprises. Alors, il y a un chiffre d'affaires minimal pour être impacté par le DMA. Il faut avoir une capitalisation boursière d'au moins 75 milliards d'euros et proposer des services avec au moins 45 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en Europe. et proposer des services dits essentiels. Bref, il y a tout un ensemble de règles, ce qui fait que tous les petits ne vont pas être impactés par ça. Et donc, les services de messagerie instantanée, donc les WhatsApp, eMessage, Facebook Messenger et autres, devront être compatibles avec les plus petits services de messagerie s'ils en font la demande.
Alors Pierre, tiens, pour un élément de contexte, en 2020, premier trimestre 2022, chiffre d'affaires d'Apple 124 milliards de dollars, bénéfice net 34,6 milliards de dollars.
Donc effectivement, 20% du chiffre d'affaires, ça va pas leur faire, ça va pas leur supprimer leur bénéfice.
Ouais, c'est pas sûr.
C'est incroyable. Bref, et donc l'histoire de l'interopérabilité, et c'est là où ça devient plus rigolo. Donc il y a toute une réflexion. Alors, est-ce que, notamment, par exemple, le réseau Telegram ou est-ce que Signal pourra demander à Facebook ou à WhatsApp ou à Apple, bonjour, je voudrais que mes utilisateurs sur Android, sur ordinateur de bureau et autres, puissent discuter avec vos utilisateurs. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et surtout, qu'est-ce que ça va être comment ça va pouvoir être implémenté? Pour l'instant, ce point-là n'est pas abordé parce que c'est un projet de loi, mais c'est là où ça va être assez intéressant et il y a déjà beaucoup de voix pour dire oh, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, ça va casser le chiffrement de bout en bout de solutions comme WhatsApp, c'est pas possible. Alors, petit rappel pour les gens qui défendent ce genre d'argument, il fut un temps que beaucoup de gens n'ont pas connu, où nous étions nombreux à utiliser Jabber, XMPP. Il y avait beaucoup de gens qui utilisaient XMPP, et il était tout à fait possible d'avoir du chiffrement de bout en bout sur XMPP. C'était pas super agréable, il y avait des lacunes, oui, mais les communications étaient sécurisées, c'était pas forcément le plus simple à mettre en place. Ce n'est pas techniquement impossible. C'est très compliqué de mettre en place une vraie interopérabilité avec des messageries chiffrées de bout en bout, mais je suis désolé, à partir du moment où c'est chiffré de bout en bout, ça veut dire qu'il y a un échange de clés qui doit pouvoir être possible. Ce n'est pas au réseau d'être le maître des clés, sinon ce n'est pas du vrai chiffrement de bout en bout. C'est le bout en bout, ça veut dire que...
C'est quand même WhatsApp qui génère votre... Même si c'est de bout en bout, votre clé sur votre téléphone, c'est quand même génère WhatsApp qui la génère, c'est pas vous.
Il faut que ce soit généré par l'application WhatsApp et pas que ce soit généré par les serveurs WhatsApp. Mais dans ce cas, si c'est généré par l'application, quand vous discutez avec quelqu'un d'autre, votre application, elle envoie la clé. Il y a un échange de clés. Et il suffit que l'échange de clés soit documenté. C'est ça le chiffrement de bout en bout. Donc, prétendre que le chiffrement de bout en bout, et la vie privée, etc., ça va se péter la gueule à cause du DMA, je suis désolé, c'est prendre le problème à l'envers. On peut parfaitement implémenter ça correctement. Maintenant, il va falloir une vraie volonté de le faire. Je suis vraiment hyper content de voir ce projet de loi passer au niveau européen. J'espère que ça sera implémenté. Et j'ai hâte de, pourquoi pas, aller envoyer un petit mail à l'adresse de contact Facebook Messenger pour leur dire « Bonjour, j'ai un serveur Jabber chez moi, je voudrais être interopérable avec les gens que je connais qui, pauvres pêcheurs, sont encore sur Facebook Messenger. »
Ça évitera cet effet où vous êtes obligé de vous inscrire sur un service pour communiquer avec certaines personnes qui n'utilisent qu'un seul service de messagerie.
Exactement.
Je le fais. Donc,
ça casse les couilles.
Mais voilà, mais oui. Mais bon, en même temps, voilà, si vous voulez avoir un minimum d'échange social avec vos proches, c'est de plus en plus obligatoire. J'arrive à échapper à Facebook, donc, je sais pas, Facebook Messenger, et à certains produits propriétaires que bon voilà. J'ai consenti à avoir. En tout cas, merci Pierre pour cette dédicalisation, l'explication de cette bonne nouvelle. Et donc, comme tu dis, c'est compliqué, mais surtout avec des entreprises qui vont pas forcément mettre beaucoup de bonne volonté, mais.
J'allais dire des entreprises malveillantes, moi.
C'était le 234e numéro de l'Écho des Gnous, émission qui est enregistrée le jeudi 31 mars pour diffusion le dimanche 3 avril. Pierre ne pouvant pas encore se rendre au studio.
Comptez pas sur
toi. En tout cas, un prompt rétablissement. Tu te rétablis plus vite que prévu. Alors, en tout cas, on en est bien content et on est tous contents de retrouver ta voix et de te retrouver dans cette émission.
En tout cas, juste, ce sera pas en direct avant mai. Là, il faut pas se leurrer, le déplacement avant mai, ça sera compliqué.
Je rappelle sur campuslive.com, vous pouvez trouver la page pour pouvoir aider l'association Radio Campus, qui est une radio complètement associative, 100% non commerciale, donc qui a besoin d'aide donc, pour pouvoir résoudre ce problème de
100% sans le sou, du coup.
Là, 100%. Alors, il y a quand même des subventions et les cotisations des adhérents. Là, pour le coup, il y a besoin de moyens, besoin de votre aide pour pouvoir continuer à émettre ces programmes de manière autonome et pouvoir remplacer son infrastructure qui a été gravement endommagée par la tempête. On se retrouve dans deux semaines pour les Codez-nous 235. Nous serons le dimanche 17 août. Avril, de 19h à 20h comme d'habitude. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir à tous. Bonne fin de week-end.
Bye bye.
Et on se quitte en musique avec John Murphy, Love You.
I've been holding you down. You've been wearing me thin. What you want me to say? You know I ain't gonna change.